Et on accueille comme tous les jours la rédaction pour le journal et Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
C'est un jugement sans précédent et surtout qui crée un précédent.
Oui, la Cour européenne des droits de l'homme condamne ce matin pour inaction climatique la Suisse. Elle déboute par contre les citoyens français et portugais qui attaquaient eux aussi leurs États. Raison procédurale, nous dira Florence Turm. Il n'en reste pas moins que la CEDH pose un jalon en matière de droit environnemental. Nous le décrypterons avec notre invité dans ce journal, la spécialiste de droit public Estelle Brosset. Est-il encore temps de sauver le géant français de l'informatique Atos? L'entreprise présentait en tout cas son plan de refinancement pour tenter d'éponger 5 milliards d'euros de dettes. L'État devrait y prendre sa part. Atos est impliqué dans des secteurs très stratégiques pour la souveraineté numérique française, nous dira Valentin Bertrand. Un ancien syndicaliste policier qui rejoint la liste RN pour les européennes. Ce n'est pas une surprise, mais une prise de guerre importante pour le parti de Jordan Bardella. On verra ça avec Rosalie Lafarge. Reportage à suivre également avec ces Gazaouis qui tentent de revenir chez eux dans la ville dévastée de Khan Younes après le retrait des soldats israéliens. Et question en fin de journal autour des pratiques littéraires des jeunes Français. Ils lisent toujours pour le plaisir, mais le livre perd encore du terrain dans leurs loisirs. Étude du Conseil national du livre, analysée par Jeanne Serrin. Nos États, nos décideurs politiques en font-ils assez face au changement climatique? La Cour européenne des droits de l'homme vient de se prononcer ce matin dans trois affaires distinctes, mais trois affaires émanant toutes de groupes de personnes dénonçant l'inaction climatique. Des jeunes Portugais, l'ancien maire de Grande-Synthe en France et l'association des aînés pour la protection du climat en Suisse. Ces décisions, elles étaient très attendues. Il faut dire que c'est la première fois que la justice européenne se prononce sur le sujet. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
La CEDH a donc tranché. Elle rejette deux recours, celui porté par les jeunes Portugais, celui porté également par l'ancien maire de Grande-Synthe. Elle condamne en revanche la Suisse, et ça, ça mérite des explications.
Oui, alors si on commence par ces jeunes Portugais mobilisés par les terribles incendies qui ont ravagé leur forêt en 2017, leur requête était dirigée contre leur pays, mais aussi 31 autres États. La Cour l'a rejetée, cette requête, pour une raison purement procédurale. Ils n'ont pas épuisé tous les recours juridiques possibles dans leur propre pays et c'est une condition sine qua non pour qu'une demande soit jugée recevable par la CEDH. Irrecevable également la requête déposée par l'eurodéputé écologiste Damien Carrère, l'ancien maire de Grande-Synthe. Il dénonçait, lui, les carences de l'État français qui faisaient peser un risque de submersion sur la ville située sur le littoral de la mer du Nord. Mais il n'habite plus la commune, ne peut être donc considéré comme victime. En revanche, la CEDH condamne la Suisse pour la requête portée par une association de femmes âgées, les aînés pour la protection du climat. C'est d'ailleurs bien l'association qui est reconnue comme fondée à agir, pas les personnes à titre individuel, et ce, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne relatif à la vie privée et familiale. Il consacre le droit à une protection effective contre les effets néfastes du changement climatique sur la santé et la qualité de la vie. La Cour conclut que la Confédération a violé cet article, manquait à ses obligations. Elle pointe de graves lacunes, notamment l'absence de quantification des limites applicables aux effets de serre. La Suisse, qui n'a pas non plus atteint ses objectifs passés de réduction de ses émissions à effet de serre. Et l'on peut effectivement parler d'une décision historique. La Suisse devient le premier État condamné pour action climatique. Cet arrêt rendu par la Grande Chambre ne peut pas faire l'objet d'un appel.
Merci à vous Florence Turm pour ces explications. Première réaction, c'est Greta Thunberg, célèbre militante contre le dérèglement climatique et dans la lutte contre ces changements climatiques, qui dit que cette décision de la CEDH, ce n'est qu'un début. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite avec Estelle Brosset. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être notre invitée. Vous êtes professeure de droit public, membre de l'Institut universitaire de France. Votre expertise porte justement sur le droit européen de l'environnement et de la santé. Cette décision en particulier de la CEDH qui condamne la Suisse, ça fait évoluer, ça crée un tournant dans le droit justement européen sur les questions environnementales?
Oui. Alors, ce que vous avez dit juste avant est vrai. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu une dense jurisprudence sur les questions d'environnement. Depuis une trentaine d'années, on dénombre presque 300 arrêts, mais aucun arrêt jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, sur le climat. Donc, pour cette première raison, ces trois arrêts étaient extrêmement attendus. Il l'était aussi parce que du côté d'une autre cour européenne, qui est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, quelques affaires climatiques avaient été rendues, mais elles avaient conclu chacune à l'irrecevabilité des requêtes. Donc jusque-là, sur le continent européen, aucune juridiction ne s'était exprimée sur le fond sur les questions climatiques.
Alors sur ces questions de recevabilité, justement, on attendait de la CEDH qu'elle fixe en quelque sorte un cadre de ce qui peut être ouvert et acceptable comme recours. Là, en l'occurrence, on a donc trois décisions assez contrastée. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que la Cour a ouvert largement du coup ses portes à ces questions-là, à ces recours citoyens, ou est-ce qu'elle finalement est dans une position un petit peu d'entre-deux?
Alors, je dirais qu'il y a quand même une position d'entre-deux. C'est-à-dire que les conditions classiques pour accéder à la Cour européenne des droits de l'homme sont assez fermement rappelées, en tout cas dans l'arrêt des jeunes portugais et l'arrêt d'Amien Carême. Il y a effectivement trois conditions pour accéder à la Cour. Il faut être victime directement et personnellement d'une violation d'un des droits ou de plusieurs droits. Il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Et il faut le faire dans un certain délai qui est le délai de 4 mois. Donc il faut avoir la qualité de victime et avoir épuisé les voies de recours internes. La Cour nous dit dans l'affaire des jeunes portugais que l'épuisement des voies de recours internes n'a pas eu lieu, que les ressortissants portugais auraient pu s'adresser aux juridictions portugaises, engager la responsabilité de leur État, d'autant plus qu'il existe dans le droit constitutionnel portugais un droit, un cadre de vie sain, équilibré. Et puis du côté de l'arrêt d'Amien Carême, la Cour rappelle bien qu'il faut démontrer sa qualité de victime, ce qui n'est pas le cas d'Amien Carême parce que il n'habite plus Grande-Synthe, qu'il est certes l'ancien maire de Grande-Synthe, mais que dans tous les cas, une commune est une organisation gouvernementale et elle ne peut pas accéder à la Cour. Donc il y a un renvoi très clair à des conditions classiques qu'on connaît bien pour accéder à la Cour. Mais je trouve que dans l'affaire des aînés suisses, il y a des éléments très intéressants et pas uniquement le constat de la violation de l'article 8, c'est le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est qu'il y a des remarques préliminaires de la Cour avant de constater cela, où elle dit bien qu'elle ne s'est jamais exprimée sur le changement climatique et que la question climatique est particulière parce que le changement climatique est lié à des sources qui sont très diverses. C'est une problématique mondiale. Les sources du changement climatique et les activités qui participent du changement climatique sont très nombreuses. Et donc la difficulté est toujours d'opérer un lien de causalité entre l'insuffisance d'une mesure ou deux mesures prises par un État et puis le phénomène général du changement climatique. Et la Cour dit, cette question climatique nécessite que j'adapte ma jurisprudence. S'il s'agit bien d'un phénomène global, il est tout de même nécessaire que chaque État prenne sa propre responsabilité.
Ça fixe un cap, donc on le voit en termes de droit environnemental, international. Pour être précis, c'est toujours la question qu'on se pose, ces décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elles sont contraignantes pour les États? Est-ce qu'il y a un côté coercitif à tout ça? Et est-ce que, même si c'est la Suisse qui est condamnée aujourd'hui, c'est ce principe de droit qui est posé, il va s'appliquer et être contraignant pour d'autres États qui reconnaissent la Cour européenne?
Oui. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, comme tous les arrêts de n'importe quelle juridiction, sont obligatoires. Ils sont obligatoires pour l'État suisse, hein, en premier lieu, qui doit exécuter l'arrêt de la Cour. Alors, la Cour rappelle bien, d'ailleurs, dans cet arrêt-là, que ces arrêts sont uniquement déclaratoires. Par principe, ils sont déclaratoires. Ils déclarent une violation, mais il n'indique pas à l'État quoi faire pour remédier à la violation. Il revient finalement à l'État défendeur de déterminer quelles mesures il doit prendre pour mettre à exécution l'arrêt. Et la Cour répète cela, y compris dans cet arrêt. Il n'en demeure pas moins que l'arrêt est certes déclaratoire, mais obligatoire pour l'État suisse. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous juristes, l'autorité de la chose interprétée. Effectivement, seul l'État suisse est visé par cet arrêt, mais la Cour ici fixe sa position sur l'application d'un des articles de la Convention de 1950, l'article 8, sa possible application au changement climatique, et donc bien évidemment que les autres États seront impactés par cette interprétation.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hélène Brosset d'avoir accepté l'invitation du Midi 30 de France Culture. Merci également à Aloïs Guérin à la préparation de cette interview.
Il est 12h40 sur France Culture. C'est la suite de votre journal, Camille Manière, avec cette question. Est-il encore possible de stopper la chute du géant français de l'informatique Atos?
Oui, l'entreprise portée au nu il y a quelques années encore comme le fleuron du numérique tricolore a vu sa valeur boursière fondre de 80% en un an. Ses meilleurs cerveaux fuir vers la concurrence et des repreneurs potentiels jeter l'éponge face à l'étendue des pertes. Bonjour Valentin Bertrand.
Bonjour.
Alors Atos, c'est un acteur incontournable de plusieurs secteurs très stratégiques pour la France, cyberdéfense, supercalculateur et même les Jeux Olympiques. Mais Atos doit surtout éponger une dette de près de 5 milliards d'euros. Pour cela, le groupe a présenté ce matin un plan de refinancement qui en appelle à ses actionnaires et à de nouveaux investisseurs aussi.
Oui, deux grands axes ont été présentés pour remettre Atos à flot. D'abord, l'entrée d'1,2 milliard d'euros d'argent frais qu'il reste à trouver. C'est donc le début d'un tour de table des actionnaires pour savoir qui est prêt à mettre combien. La porte est d'ailleurs aussi ouverte à de nouveaux investisseurs. Ensuite, il y a le désendettement, il doit être drastique et rapide selon la direction. Pour cela, Atos va demander à ses créanciers d'annuler une partie de sa dette contre des actions. Et il ne s'agit pas d'une petite annulation, mais bien de la moitié des 5 milliards d'euros. Ces deux leviers combinés, ils ont le même but, passer le cap de la fin 2025 où Atos doit rembourser ou refinancer les trois quarts de sa dette. Voilà pour le cadre, sera-t-il accepté ou non? Investisseurs et créanciers ont jusqu'au 26 avril pour donner leur réponse ou faire des contre-propositions. Le premier actionnaire d'Atos, David Layani, veut notamment garder le groupe en un seul morceau. Et pour ça, il a reçu le soutien de Butler Industries, dont le siège est en France. Mais la piste d'une division de groupe n'est pas écartée. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky aurait des vues sur les activités d'infogérance, malgré l'échec de première négociation. Autre groupe intéressé, Dassault Aviation pour l'activité des grands calculateurs et de la sécurité, des domaines pour lesquels le gouvernement promet de défendre les intérêts stratégiques de la France. Atos fournit notamment les logiciels de la CAF, les centrales nucléaires ou encore l'organisation des JO, vous le disiez. Pour protéger le fleuron, Bercy annonce donc une contribution de 50 millions d'euros convertis en actions, ce qui veut dire que l'État va devenir un petit actionnaire d'Atos.
Valentin Bertrand, merci à vous. Le casting se précise, on parle politique à présent, à moins de deux mois des élections européennes. Le Rassemblement National, en tête des intentions de vote, annonce avoir recruté en bonne position sur sa liste une figure du mouvement policier. Mathieu Vallet, ancien chef adjoint de la BAC du Val-de-Marne, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est une prise de guerre importante pour le parti Rosalie Lafarge.
Oui, la rumeur bruissait depuis plusieurs semaines. Il en avait d'ailleurs perdu son mandat de porte-parole d'un syndicat dit apolitique. Mathieu Vallet confirme donc.
J'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Sur CNews ce matin, il met en avant des origines modestes, assure avoir été dans sa vie, je cite, « tout cherché avec les dents » et voit cette nouvelle étape politique comme un aboutissement finalement assez logique.
Jordan Bardella et Marine Le Pen ont toujours défendu les policiers et les gendarmes de la République. Et c'est aussi une des raisons qui a guidé mon choix au sein de ce parti. Pendant 20 ans, j'ai consacré ma vie à protéger Français. Policier j'ai été, policier dans mon cœur je resterai. Et je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella me donnent la formidable occasion de porter les couleurs de mon institution, de tous les Français au Parlement européen, si les Français nous font confiance le 9 juin.
S'il y a un vote important documenté du monde policier en faveur du Rassemblement National, ce recrutement-là, celui de cet ancien responsable policier, n'est pas anodin pour Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po.
Il est très important pour les Rennes de montrer qu'il est capable de mobiliser une partie de la haute fonction publique, donc des élites de l'État, et qu'il est capable donc aussi d'attirer les sommets de la hiérarchie qui jusque-là étaient quand même toujours très, au sein de la fonction publique, très réticents vis-à-vis de l'extrême droite. Ils préféraient effectivement beaucoup plus les Républicains ou la droite modérée ou le centre. Ça permet de montrer qu'ils élargissent leur électorat à des profils qui, il y a encore 10 ou 15 ans, n'auraient pas du tout été les leurs.
Une étape de plus dans la dédiabolisation d'un parti qui en est candidater pour ce scrutin à son troisième recrutement extérieur après l'ancien patron de l'agence Frontex, Fabrice Légéry, et l'essayiste Malika Sorel.
Rosalie Lafarge, merci. Les suites de cet incendie qui avait détruit le haut d'un immeuble rue de Charonne à Paris dimanche soir, qui avait fait 3 morts, 2 retrouvés dans les décombres et 1 qui s'était jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Eh bien, on apprend ce matin qu'une enquête pour meurtre a été ouverte, piste criminelle privilégiée donc, depuis que 2 impacts de balles ont été retrouvés sur l'une des victimes qui n'a pas encore pu être identifiée.
Au Proche-Orient, Israël, par la voix de son premier ministre, fait savoir qu'une date a déjà été arrêtée pour lancer une opération militaire contre le Hamas dans le secteur de Rafah.
Oui, on est là à l'extrême sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés des centaines de milliers de Gazaouis depuis des mois. Ce serait un massacre, avait alerté la Maison-Blanche, mais Benjamin Netanyahou semble maintenir le cap. Il maintient surtout la pression sur les négociations d'une éventuelle trêve avec le Hamas. Sur le terrain Gazaoui, depuis dimanche, les troupes israéliennes se sont retirées de la ville de Khan Younes, la deuxième de l'enclave, transformée en un véritable champ de bataille, une ville fantôme sur laquelle reviennent tout de même des centaines d'habitants depuis Jérusalem. Alice Froussard a recueilli leurs témoignages.
Les rues ont été rasées au bulldozer, tout est méconnaissable. Partout, des nuages de poussière et une odeur de mort, car certains corps sont encore sous les décombres. Voilà ce que décrit Yasmine, une habitante de Khan Younes.
Que dire de plus? Il n'y a pas une maison sans martyr, sans blessés ou sans destruction. Aucun mot ne peut décrire ce que l'on ressent.
Comme elle, de nombreux Gazaouis espéraient retrouver leur maison, même détruite. C'est mieux que vivre dans une tente à Rafah, dit-elle. Mais pour beaucoup, il ne reste qu'un gigantesque Tad Grava, Yasser et sa famille n'ont plus rien.
Un missile l'a visé juste avant qu'on ne parte. On était 16 à y vivre, mais la maison était encore debout. Là, elle est complètement détruite.
D'autres ont surtout de mauvaises surprises, comme Mohamed.
Quand on est parti de chez nous, la maison était intacte. Là, on est revenu et l'armée israélienne a laissé des explosifs à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'on doit faire, et si c'est dangereux ou pas, ni comment on doit les manipuler.
C'est le sentiment partagé chez tous ces habitants de Khan Younes. Nous ne nous attendions pas à un tel niveau de destruction, précise-t-il, avant d'ajouter, nous venions seulement chercher quelques habits, un toit et un peu de réconfort en retrouvant nos affaires.
Alice Froussard et les signatures d'Emmanuel Macron, du roi de Jordanie Abdallah et du président égyptien Al-Sisi. On les retrouve au bas d'une tribune publiée dans la presse lundi soir. Une tribune qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, une libération de tous les otages à Gaza. Elle met cette tribune aussi Israël en garde contre les conséquences dangereuses qu'aurait une offensive à Rafah. Alors faut-il y voir une tentative de relancer un processus diplomatique très largement grippé? Ça n'est même pas si sûr, Christian Chéneau.
C'est un peu la diplomatie du désespoir ou la diplomatie de l'incantation. Faute de pouvoir faire appliquer la résolution 2728 adoptée il y a 10 jours au Conseil de sécurité, les 3 présidents en sont réduits à publier une tribune dans la presse, signe d'une forme d'impuissance et de frustration. Comme le texte de l'ONU, resté lettre morte, qui réclamait un cessez-le-feu humanitaire, prélude à un cessez-le-feu durable, la France, la Jordanie et l'Égypte lancent un appel pour que la guerre à Gaza et les souffrances catastrophiques qu'elle entraîne sur les civils s'arrête immédiatement. Pour l'Élysée, l'idée de cette tribune est de montrer à l'opinion publique que la France ne relâche pas ses efforts diplomatiques avec ses partenaires arabes. Paris, Le Caire et Amman mettent en garde contre une offensive israélienne à Rafah dans le sud de la bande de Gaza où plus 1,5 million de Palestiniens ont trouvé refuge. Une telle opération militaire, selon eux, ne pourrait qu'accroître les pertes humaines, aggraver le risque de déplacement forcé des Gazaouis et entraîner une menace d'escalade dans la région. La tribune des 3 chefs d'État appelle enfin à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas.
Enfin, ce n'est pas une fatalité, mais en tout cas un constat. Les jeunes Français se détournent peu à peu de la lecture, confirmé par une étude, une nouvelle étude du Centre National du Livre. Jeanne Serrin, cette étude, elle montre tout de même que les jeunes continuent de lire pour leur plaisir personnel. On atteste la bonne santé de la littérature jeunesse en librairie, mais chez les adolescents en particulier, l'objet livre perd encore du terrain.
Oui, sur la tranche d'âge étudiée, 7 à 19 ans, ils sont en tout 81% a déclaré lire dans le cadre de leurs loisirs. Mais dès qu'on s'intéresse aux adolescents, ce chiffre baisse drastiquement. Entre 16 et 19 ans, près d'un jeune sur 3 ne lit pas du tout sur son temps libre. Et ce désintérêt commence même beaucoup plus tôt chez les garçons. Dès 10 ans, la lecture n'arrive plus à s'ancrer dans les habitudes. Quant aux pratiques, l'étude dresse là aussi un constat inquiétant puisque les jeunes lisent de moins en moins longtemps. En moyenne, 2h11 par semaine, 30 minutes de moins qu'en 2022. Pour vous donner un ordre de grandeur, les jeunes consacrent 10 fois plus plus de temps aux écrans qu'à la lecture. Il leur arrive même de faire les deux en même temps. Près d'un jeune sur deux déclare faire autre chose pendant ses lectures. Alors que font-ils? Eh bien, 36% envoient des messages, 34% regardent des vidéos, 31% vont sur leurs réseaux sociaux. Les écrans, c'est la cause majeure de décrochage. Conséquence directe, parmi les jeunes qui ne lisent pas, 27% déclarent que c'est parce qu'ils ont du mal à se concentrer. C'est 10 points de plus qu'en 2022. Autre raison invoquée pour expliquer ce désintérêt, je n'ai pas le temps, les livres sont trop longs, les mots trop difficiles à comprendre. Des appréhensions donc qui se traduisent directement dans leur choix de lecture. En première place toujours les BD et les mangas. Le roman arrive en troisième position des livres que les jeunes lisent de plus en plus sur leurs écrans de smartphone. C'est le dernier enseignement de l'enquête. Plus de 40% des jeunes se sont mis aux livres numériques, 10% de plus qu'en 2022.
Allez, les BD, les mangas, c'est aussi de la lecture, c'est ce que j'arrête pas de répéter à mes fils. La lecture, avis de vent et vagues submersion maintenues à l'orange sur les côtes de la Manche, vigilance crue sur l'Eure et la Seine-Maritime. Cet après-midi, alternance d'éclaircies et de pluie sur de la Haute-Normandie jusqu'au massif des Alpes et des Pyrénées. Température fraîche à l'est, 13 degrés à Paris et 18 à Marseille. On se quitte là-dessus pour le moment. Merci à Nicolas Pomé qui a réalisé ce journal et prochain rendez-vous avec la rédaction à 18h avec Aurélie Kiefer.